Chapitre 4. Le 12 août 2016, 22h. Mon père n'a pas tourné. Clotilde avait reposé son livre et se tenait assise sur la chaise, ses pieds nus et ses ongles rouges fouillant le sable mêlé de terre et d'herbe. La baladeuse accrochée à la branche d'olivier au-dessus du salon de jardin de plastique vert faisait tituber la nuit. Il disposait d'un emplacement de 15 mètres sur 10, plutôt en retrait des autres, plutôt ombragé, pour compenser l'absence de sanitaires proches et la taille ridicule du bungalow loué pourtant pour 3 adultes. « Ici, on vit dehors, mademoiselle Idrissi », avait assuré avec obséquiosité le patron du camping des œufs Proct, lorsqu'elle avait réservé cet hiver. Visiblement, Cervone Spinello n'avait pas changé. « Quoi ?» répondit Frank. Il était en équilibre instable et ne se donna pas la peine de se retourner. Il avait étalé un journal sur le siège arrière afin de poser ses pieds nus dessus. Sa main gauche s'accrochait à l'une des barres de la Passat, alors que la droite dévissait à grand-peine un boulon du coffre de toit. « Mon père, » continua Clotilde, « dans le virage de la Petra Coda, il n'a pas tourné. C'est le souvenir précis que j'en ai. Une longue ligne droite, un tournant serré, et mon père qui fonce droit dans les barrières de bois. » Seul le cou de Frank pivota. Sa main, elle, continuait de desserrer le boulon avec la clé, en aveugle. « Qu'est-ce que tu veux dire, Claude ? Qu'est-ce que tu sous-entends ?» Clotilde mit du temps à répondre. Elle observait Frank. La première chose que faisait son mari, le soir du premier jour de vacances, était de démonter le coffre de toit et les barres sur la voiture. Il était capable de justifier son empressement en fournissant toute une liste d'arguments parfaitement rationnels. La consommation d'essence supplémentaire, la prise au vent, les pattes des barres qui marquent la carrosserie. Clotilde y voyait surtout un encombrement supplémentaire à caser dans leur carré de vacances. Et au fond, même pas. Elle s'en fichait de ce coffre de toit qu'il fallait poser, ranger, bâcher. Elle trouvait juste ça con. S'emmerder à ça. Retirer une à une les petites vis et les mettre dans des petits sachets avec des petits numéros correspondant aux petits trous. Dans ces moments-là, Valo n'était pas du genre à jouer les pacificatrices. Leur ado était déjà parti explorer le camping, évaluer la moyenne d'âge des vacanciers et recenser leur nationalité. Rien, Franck. Je ne veux rien dire. Je ne sais pas. Clotilde avait répondu d'une voix un peu lasse. Franck avait changé de trou et grognait contre le crétin qui avait trop serré les boulons. Lui, hier. L'humour, selon Franck. Clotilde se pencha en avant, fit défiler entre ses doigts les pages de son livre. Temps glaciaire, le dernier Vargas. Elle pensa stupidement que Temps glaciaire, avec un E accent grave, aurait été un titre plus approprié pour un best-seller de l'été. L'humour, selon Clotilde. Je ne sais pas, continua-t-elle. C'est juste une sensation étrange. En regardant la route tout à l'heure, j'ai eu l'impression que même en roulant trop vite, même de nuit, mon père aurait eu le temps d'appuyer sur le frein, de braquer. Et cette impression, bizarrement, correspond au souvenir que je traîne dans ma tête depuis l'accident. Tu avais 15 ans, Claude. Clotilde reposa le livre, sans répondre. Je sais, Franck. Je sais que ce ne sont que des impressions fugitives, que tout s'est joué en 2 ou 3 secondes. Mais écoute ça, Franck, si tu m'entends tout au fond de ton cerveau, si tu sais encore lire dans le creux de mes yeux. C'est une certitude. Une certitude. Papa n'a pas tourné. Il a foncé tout droit vers le précipice, avec nous tous à l'intérieur. Clotilde fixa un instant la lampe qui se balançait doucement au-dessus de sa tête, les seins de papillons de nuit qui grillaient leur vie éclair contre l'ampoule. Il y a autre chose, Franck. Lors de l'accident, papa a pris la main de maman.
Avant le virage?
Oui, juste avant. juste avant le choc contre la barrière, comme s'il avait compris qu'on allait s'envoler au-dessus du vide, qu'il ne pouvait pas l'empêcher. Un léger soupir, un troisième boulon céda. « Tu veux dire quoi, Claude ? Que ton père se serait suicidé, avec vous tous dans la voiture ?» Clotilde répondit rapidement, trop peut-être. « Non, Franck, bien sûr que non. Il était en colère parce qu'on était en retard. Il nous emmenait voir un concert de polyphonie corse. C'était l'anniversaire de rencontre de mes parents aussi. On sortait d'un apéritif avec toute la famille, ses parents, les cousins, les voisins. Non, ce n'était pas un suicide, bien sûr que non. » Franck haussa les épaules. « C'est réglé alors, c'était un accident. » Il changea la clé de 12 de main. La voix de Clotilde glissa comme un murmure, comme pour ne pas réveiller les voisins. On percevait dans l'emplacement d'à côté le son lointain d'une série télévisée en italien. Il y a eu le regard de Nicolas aussi. Franck stoppa son mouvement. Clotilde précisa. Nicolas n'a pas eu l'air surpris. Comment ça? Juste avant qu'on passe à travers la barrière, la seconde avant, quand on savait déjà que c'était fini, que plus rien ne pourrait arrêter la fuego, j'ai lu dans les yeux de mon frère une expression bizarre, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il n'était pas si étonné, comme s'il avait compris pourquoi on allait tous mourir. Tu n'es pas morte, Claude. Si, un peu. Elle fit tanguer son siège de plastique, le basculant un peu en arrière. À ce moment, elle aurait voulu que Franck descende et la prenne dans ses bras, qu'il la serre contre lui, qu'il lui dise n'importe quoi, qu'il se taise même, mais qu'il la rassure. Il fit sauter le quatrième boulon, puis attrapa le coffre de toit gris et vide sur son dos. Façon Obélix, pensa Clotilde. L'image la fit sourire. Dédramatisé, toujours. Oui, à porter son menhir en plastique sur son dos, torse nu avec son pantalon de toile bleue, Franck ressemblait étonnamment à Obélix. Sans le bide. À 44 ans, Franck était encore un bel homme. Un torse large, des muscles longs. Il y a près de 20 ans, elle avait craqué pour son sourire franc. Son assurance rassurante. Mais aussi pour sa carrure de crawler compulsif. Ça avait aidé Clotilde à tenir, à l'aimer, à se convaincre que c'était le bon. Enfin, qu'il y avait pire, bien pire. Bizarrement, maintenant qu'année après année, demi-kilo après demi-kilo, centimètre de tour de taille après centimètre, il avait pris ce ventre que même les plus beaux garçons finissent par prendre, elle s'en foutait. Ça ne rentrait plus vraiment en ligne de compte, le corps de son mec. Alors que Franck s'en faisait une montagne, une colline au moins. Une jolie colline arrondie autour de son nombril. Obélix posa son menhir avec délicatesse. Faut pas que tu pourrisses tes vacances avec cette vieille histoire, Claude. Traduction. Faut pas que tu nous pourrisses les vacances avec ta vieille histoire, chérie. Clotilde esquissa un sourire. Après tout, c'est Franck qui avait raison. Ils se l'étaient tous coltiné, en famille, son pèlerinage. Une corvée. Oust, plié. Zou, oublié. Elle s'autorisa juste un dernier débriefing. Franck avait au moins cette qualité. Avec lui, on pouvait parler sans fin de l'éducation des enfants. Donc de Valentine. Tu penses que je n'aurais pas dû en parler à Valou? Lui montrer le lieu de l'accident? Si, bien sûr que si. Ce sont ses grands-parents, c'est important qu'elle... Il se rapprocha de Clotilde, tout en essuyant ses mains à une serviette qu'il avait décrochée d'un fil. Tu sais, Claude, je suis fière de toi. Que tu aies eu ce courage, après ce que tu as vécu. Je sais d'où tu viens, je ne l'oublie pas. Mais maintenant... Il s'essuya les épaules, les aisselles, la poitrine, jeta la serviette en se penchant vers Clotilde. Trop tard, pensa Clotilde. Trop tard, mon chéri. Juste quelques secondes trop tard pour que la compassion de son mari ne sente pas à plein nez le mal excité par les premières chaleurs. Le mal civilisé qui prend tout de même le temps de remiser son coffre de toit et protéger la carrosserie de sa caisse avant d'aller trousser sa femelle.
Maintenant quoi, Frank ?
Frank posa une main sur la taille de Clotilde. Ni lui ni elle n'étaient très habillés. La main remonta un peu sous son chemisier.
Maintenant, on va se coucher ?
Clotilde se leva et recula d'un pas. Doucement, sans le froisser. Sans lui laisser d'espoir non plus.
Non, Frank, pas tout de suite.
Elle avança, attrapa à son tour sa serviette au fil, ramassa sa trousse de toilette.
J'ai besoin de prendre une douche.
Juste avant d'atteindre l'allée de terre, Clotilde se retourna une dernière fois vers son mari.
Frank, je ne crois pas qu'on ait survécu à l'accident.
Il la regarda bêtement, comme un lion qui vient de laisser la gazelle quitter le point d'eau sans même la pourchasser. Sans comprendre ce que venait faire cette phrase dans la conversation. Le camping était à peine éclairé. Après l'unique réverbère de l'allée B, celle où s'alignaient 5 chalets prestige finlandais posés là 6 mois plus tôt, Clotilde passa devant le dernier emplacement, réservé aux tentes, squatté par un groupe de motards, allongés en cercle, bière à la main. L'humo gaz en totem, moto parquée sous les arbres façon troupeau de pur sang. Comme un absolu de liberté, un parfum corsé de mélancolie. Clotilde longea la parcelle. Une dizaine de têtes pivotèrent pour saluer le passage de la belle, dans un geste synchronisé d'Ola fatigué, pratiqué à l'horizontale. La jupe de Clotilde lui arrivait à mi-cuisse, et 3 boutons ouverts de son chemisier dévoilaient les premières courbes de sa poitrine. À 42 ans, Clotilde se savait séduisante. Petite, certes, fluette, mais avec des formes pile là où il faut, pile là où les hommes aiment les trouver. Depuis l'année de ses 15 ans, Clotilde avait pris à peine 4 kilos, un dans chaque sein, un dans chaque fesse. Plus jolie aujourd'hui qu'hier. Dans sa tête au moins, dans les regards souvent. Elle n'avait pas eu besoin de club de gym ou de piscine pour entretenir sa silhouette. Elle était juste le résultat d'un parfait entraînement quotidien. Une maman saine dans un corps sain. Poussage de caddie chargé à bloc, sprint jusqu'à la sortie de l'école, flexion-extension devant le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, à fond la forme. Joindre l'utile à l'agréable à l'œil. Un Franck. Quelques minutes plus tard, Clotilde sortit de la douche, enroulée dans sa serviette de bain. Elle était seule dans les sanitaires, à l'exception d'une ado très brune, occupée à s'épiler les jambes avec un rasoir électrique qui émettait un bruit de gris moustique. De l'autre côté de la cloison de faïence, des rires bruyants de garçons accompagnaient un interminable rythme de techno. Clotilde prit le temps de se regarder dans l'immense miroir qui courait sur tout le mur, de lisser ses longs cheveux noirs qui descendaient jusque sous sa poitrine. Ce camping la ramenait 27 ans en arrière, à son même corps, à son même visage, devant le même miroir, lorsqu'elle avait 15 ans. À ce corps de gamine qu'elle traînait à l'époque, comme un boulet. À cette fantaisie qui était alors son seul atout face au garçon, sa seule arme. Dérisoire. Un pistolet à eau.